Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'art? Ça, c'est une question qui est vraiment très large et qui remonte déjà à quelques années quand même. Oui, donc, je pressentais que c'était uniquement dans ce domaine que je ne pouvais ne pas m'ennuyer, on va dire, ou surtout ne pas ressembler à ses parents, surtout ne pas faire le même parcours. Ça, c'est plus anecdotique. Mais disons que l'idée de créer, l'idée d'inventer des choses a toujours été présente. Et donc j'ai commencé par la bande, on va dire. Enfin, avec j'ai fait une école d'art appliquée à Paris. Puisque c'était l'art appliqué, c'était ce qui faisait le moins peur, on va dire, dans un environnement familial. Parce qu'au moins, oh, il va faire de l'art, mais dans un truc qui sert à quelque chose, quoi, avec une finalité, un métier et compagnie. Donc j'ai eu cette formation d'art appliqué qui est solide, qui est intéressante. Formation dans laquelle on apprend des techniques, on apprend à dessiner, on apprend à l'utiliser, on apprend oui, à produire dans différents domaines. Et j'ai mis très longtemps à me débarrasser de cette formation. Quand j'entends par se débarrasser de cette formation, c'est-à-dire j'ai une formation qui était uniquement pratique et sans questionnement, sans questionnement théorique ou conceptuel. Là, je l'analyse un petit peu avec du recul, mais sur le moment, je ne savais pas trop ce qui n'allait pas, mais je pressentais que je devais peut-être oublier les savoir-faire et me recaler sur des choses plus essentielles, on va dire. Donc éliminer, ne pas, ne, enfin c'est un peu confus comme explication, mais disons ne pas être encombré par un savoir-faire. Donc c'est un cheminement assez long. J'ai mis une dizaine d'années à peu près à accomplir ce trajet. Durant cette dizaine d'années, j'ai continué à produire des choses. Je viens d'un univers très, on va dire, très conventionnel, peinture, sculpture et compagnie. Et puis, dans la culture artistique proprement dite, je l'ai plus assimilé en visitant des expositions, en rencontrant des personnes, plutôt que dans la formation pratique que j'ai eue d'une manière scolaire. Voilà, donc quand j'ai progressivement, enfin non, brutalement même, abandonné la production de peinture conventionnelle. Et puis très rapidement, commencer à travailler avec d'autres personnes. Donc ça explique un petit peu les travaux actuels dans l'esprit de chez Robert ou de Cynthia. Je crois que l'expérience fondatrice de ce travail a été un collectif que j'ai créé avec personne avec qui j'étais à l'école des arts appliqués, donc Patrice Girard, et avec lequel on a créé un collectif qui s'appelait État d'âme, dans lequel on a produit des pièces qui consistaient qui s'articulaient autour de l'éphémère, du temps qui passe et des choses qui sont en devenir. Et à travers nos productions, on a très vite travaillé uniquement avec des perfuseurs d'hôpitaux et des éponges compressées. Ce qui donnait des sortes de dispositifs en fonctionnement qui s'épanouissaient et qui duraient ou une journée, ou quelques jours, ou même quelquefois 3 semaines, en arrivant à bien maîtriser l'écoulement du goutte à goutte. Bon, c'est vrai que entendu comme ça paraît assez abstrait, mais disons qu'on avait. On avait suffisamment de pêche pour créer des choses assez décalées et qui ont bon, comme on dit, qui ont eu un succès d'estime, on a créé on a fait un hommage à Yves Klein au Grand Palais, il y a très longtemps de ça, c'était en 89, dans le cadre d'un salon, le Salon des artistes décorateurs, et dans ce cadre, il y avait un hommage à des personnalités. Donc on a proposé de faire un hommage à Yves Klein, ce qui était un petit peu justifié avec l'histoire des éponges. Et donc on a créé un stand avec une cinquantaine de perfuseurs d'hôpitaux remplis d'encre bleue qui nourrissaient des éponges. Et ce travail était totalement décalé au milieu des artistes décorateurs, et, des mini-polémiques, ça a un petit peu brassé. Et c'est à cette occasion qu'on a pu rencontrer donc quelques personnes qui nous ont bien poussé dans ce sens. The rain falls down on last year's man. That's a jew's harp on the table. That's a crayon in his hand. And the corners of the blueprint are ruined since they rolled. Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen, on the works of last year's man. I met a lady, she was playing with her soldiers in the dark. Oh, one by one she had to tell them that her name was Joan of Arc. I was in that army, yes, I stayed a little while. I want to thank you, Joan of Arc, for treating me so well. And though I wear a uniform, I was not born to fight. All these wounded boys, you lie beside. Good night, my friends, good night. I came upon a wedding that old families had contrived. Bethlehem, the bridegroom, Babylon, the bride. Great Babylon was naked, oh, she stood there trembling for me. And Bethlehem inflamed us both like the shy one at some orgy. And when we fell together, all our flesh was like a veil that I had to draw aside to see the serpent eat its tail. Some women wait for Jesus, and some women wait for Cain. So I hang upon my altar, and I hoist my axe again. And I take the one who finds me back to where it all began. When Jesus was the honeymoon and Cain was just the man. And we read from pleasant Bibles.
things that are bound in blood and skin. But the wilderness is gathering all its children back again. The rain falls down on last year's man. An hour has gone by and he has not moved his hand. But everything will happen if he only gives the word. The lovers will rise up and the mountains touch the ground. But the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen, on the work of last year's man.
Ensuite, comment s'est poursuivie cette production? Donc, État d'âme a vécu pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, j'ai travaillé sur des pièces qui s'articulait beaucoup sur cette idée de fragilité, d'éphémère, ou de comment une œuvre peut naître, comment est-ce qu'elle peut être regardée, comment est-ce qu'elle peut apparaître ou disparaître. Les idées de enfin les principes de les principes idées, c'est peut-être pas des mots qui conviennent bien, mais c'est ce concept d'éphémère, ce concept de ces sortes de vanités, on va dire que j'ai travaillé beaucoup, peut-être sur des vanités contemporaines, si on doit essayer de définir la chose. Et rétrospectivement, donc, je me rends compte que c'est vrai que le questionnement était toujours présent. Alors le questionnement, ça veut tout dire et rien dire, mais disons que la production de l'œuvre, disons que la question est l'essence même de la production de l'œuvre. C'est-à-dire, c'est pas l'idée de donner des réponses ou de faire des travaux fermés ou aboutis, mais plus d'avoir essayé de donner forme à ce type d'interrogation. Alors des exemples, parce que c'est très abstrait, c'est difficile de parler d'un travail en général, donc peut-être avec des exemples plus précis. J'ai fait une pièce par exemple qui s'appelle Encore un effort, qui est un petit personnage en papier qui est posé, qui est punaisé au mur, et il est accroché au nombril, donc il pend lamentablement sur le mur, mais il pend à l'aplomb d'une résistance électrique, et lorsque l'on branche la résistance électrique, la chaleur donc lui permet de petit à petit relever la tête. Encore un effort. Donc ce personnage s'agite, il frémit, il bouge, et puis progressivement il réussit à se redresser. Donc ça, c'est une pièce parmi d'autres, mais qui je pense qu'il peut peut-être résumer un petit peu les différents travaux que j'ai réalisés jusqu'à présent. Il y a cette notion donc de se nourrir de chaleur ou de se nourrir de quelque chose et puis de faire advenir. Ensuite, je reviens sur chez Robert. C'est vrai qu'on est Ce travail-là, je le revendique comme un travail d'artiste. Il se construit aussi avec d'autres artistes, avec d'autres personnalités. Peut-être que aussi la jeunesse de chez Robert pourrait se trouver dans une installation que j'ai réalisée au Getty Center, donc à Los Angeles, où le commissaire d'exposition m'avait sollicité pour réfléchir à une pièce destinée à intégrer une conférence sur la conservation de l'art contemporain. Donc c'est une conférence organisée sur un symposium, conférence sur 3 jours, où des scientifiques, des critiques, des écrivains venaient du monde entier et pendant 3 jours, donc échangeaient et donnaient partageaient leur expérience sur la thématique de la conservation de l'art contemporain. En contre-pied de cette conférence, donc, j'ai réfléchi à une œuvre qui allait, elle, disparaître pendant les 3 jours de la conférence. Donc j'ai proposé une sorte de stèle, une stèle relativement imposante, puisqu'elle reprenait le module de la fondation Getty, qui est une fondation assez importante, donc sur une colline en haut de ce qui domine Los Angeles. Et donc toutes les façades sont une trame carrée avec donc un rythme de pierre et de verre. Et j'ai repris le module de la façade de la fondation, ce module donc vitré, pour déterminer la proportion de cette stèle. Et cette stèle a été construite en glace, avec de la glace, enfin de l'eau donc. Et dans cette glace, j'ai inclus donc toute une liste de prénoms d'artistes. Donc il y avait une liste d'environ 80 artistes, nommés uniquement par leur prénom, donc noyés dans de la glace. Cette liste, elle correspond à la liste des artistes qui ont participé à l'exposition qui était fondatrice de l'art contemporain, cette exposition nommée Quand les attitudes deviennent formes, exposition qui a eu lieu dans les années 60. Et donc, tous ces prénoms d'artistes étaient figés dans la glace. Au début de la conférence, donc, s'était installée, protégée de la température ambiante, et puis découvert donc au début de la conférence, ce pain de glace est une forme un peu trapézoïdale, donc il a fondu progressivement pendant 3 jours. Et au fur et à mesure de la fonte de ce bloc, les lettres qui étaient en cire, ce sont des lettres en cire qui étaient noyées dans de la glace, ces lettres tombaient au sol. Et il y avait un bassin de rétention, donc de l'eau. Et donc, à la fin des 3 jours de la conférence, tous les prénoms avaient disparu et on avait une soupe de lettres dans l'eau, qui flottait dans l'eau. On pouvait, dans cette soupe de lettres, donc, imaginer reconstruire les prénoms des artistes de demain. Voilà, c'était une sorte de contre-pied assez ironique par rapport à la conservation. Donc ce travail était vraiment une étape importante dans mon parcours artistique, parce que je crois qu'outre le fait qu'il ait été fait dans un lieu prestigieux et puis qu'il ait été une riche expérience pour moi, il m'a aussi, je pense, permis d'ouvrir et de faire advenir les pratiques que je mène actuellement. Enfin, disons qu'il porte en germe, je pense, les projets que j'ai évoqués jusqu'à présent.
sometimes think it's me.
Question de vie et de travail. Vaste programme. Comment vit un artiste? De quoi comment il se nourrit? Comment il réussit à survivre dans ce monde articulé uniquement autour du fric? Et c'est vrai que c'est une question importante par rapport à ses pratiques. Donc j'ai tenté plusieurs réponses. J'ai commencé à sortir de l'école. Disons que par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans l'enseignement en tant que maître auxiliaire au début, et j'ai commencé ce travail uniquement pour avoir des vacances et du temps libre. Ce travail que j'ai ensuite fait à mi-temps, selon ou à temps partiel ou à plein temps, selon les années. Mais avec toujours le sentiment de me dire... Oui, en m'excusant presque d'avoir ce travail, en disant « Ouais, mais moi je suis artiste, bon, c'est vrai, j'ai un petit boulot à côté, mais mon objectif, c'est de vivre de mon art, avec toujours un petit peu ce cliché de l'artiste qui est autonome et qui est reconnu grâce à l'argent qu'il gagne. » Mais ce cliché, je l'avais aussi en tête dans cette période-là, donc j'ai eu quelques années où j'ai pu avoir des commandes publiques, ou bien j'ai fait des murs peints ou des choses comme ça, donc où j'ai pu matériellement pouvoir abandonner l'enseignement et puis vivre uniquement de mon travail artistique. Ce qui s'est avéré sur la durée peut-être pas le plus confortable, parce qu'il y a des années fastes et d'autres moins. Et je me suis retrouvé progressivement dans des situations difficiles, j'ai jamais été dans la misère, mais des situations difficiles d'un point de vue créatif, c'est-à-dire que le travail est parasité par des histoires économiques, c'est-à-dire, plus clairement, se dire oh, bah, tiens, je pourrais produire ça, mais est-ce que ça va se vendre? Ou comment est-ce que je pourrais placer telle ou telle pièce? Et ça, j'ai trouvé vraiment. Je trouvais vraiment que c'était assez négatif par rapport à la production. Donc, j'ai pris le parti de reprendre l'enseignement après une longue période de mise en disponibilité. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir reprendre l'enseignement dans un lycée qui est spécialisé dans le domaine du bois, dans les arts du bois. Et dans ce lycée, s'est créé des sections de DMA, diplôme des métiers d'art, avec donc des étudiants qui viennent pour à la fois apprendre un métier lié à des pratiques artisanales, on va dire, mais aussi à des pratiques de création, à des problématiques de conception de mobilier. Et donc, dans ce cadre-là, je fais un travail de suivi de projet vis-à-vis d'étudiants. J'organise aussi maintenant beaucoup d'ateliers de création avec des artistes intervenants. Je rencontre des étudiants qui sont absolument passionnants et qui me nourrissent aussi. Donc, L'attitude que j'ai eue pendant très longtemps de prendre un travail travail d'enseignement comme un travail alimentaire, choisi un peu par défaut, cette attitude s'est totalement inversée. Maintenant, je revendique ce travail d'enseignant. Et disons que j'ai eu une vocation tardive. C'est un travail que je trouve vraiment, vraiment très, très riche, très, très intéressant. Donc ce travail, je le fais à temps partiel, ce qui me permet de me libérer suffisamment de temps pour poursuivre mes travaux de création. Et ce qui me permet aussi d'avoir le luxe de mener et de tenir des projets à bout de bras sans être parasité par des problèmes d'argent, on va dire. Je reviens encore chez Robert. Ce projet-là, est sans finalité lucrative. C'est un projet avec zéro budget. C'est aussi une des grandes forces de ce projet. C'est ce qui fait aussi sa spécificité. Et donc, ce projet, si je n'avais pas mon activité d'enseignant, je ne pourrais tout bêtement pas le poursuivre. Voilà pour la réponse, l'équilibre entre comment gagner sa vie et comment poursuivre un travail de création. Situé géographiquement, mon lieu de travail et de vie, d'écrire un atelier. Ça, c'est une question Bon, on va pas dire qui me pose problème, mais peut-être qui réduit un petit peu qui réduit un peu le propos. Et c'est vrai que l'idée de l'atelier, pour moi, l'atelier, c'est un lieu important, c'est un lieu où l'on se pose, où l'on, bien sûr, où l'on travaille, où l'on réfléchit. Mais en termes de production par rapport à mon travail actuel, c'est un lieu d'expérimentation. Mais je ne sais pas si je peux définir ce lieu comme mon lieu d'activité. Donc c'est peut-être, enfin c'est un petit peu, je ne sais pas si je vais pouvoir formuler tout ça clairement. Mais disons que j'ai un lieu qui se situe dans le Jura. J'habite un bourg tranquille dans lequel je suis bien, avec un lieu que j'ai dessiné où j'ai un bureau. Où j'ai une grande pièce pour expérimenter et tester les choses, où j'ai aussi un autre lieu qui est plus atelier bricole et petite machine. Et bien, si je dois définir ce lieu comme un lieu de production, je ne sais pas si je serais si je serais juste, puisque la production, les choses qui adviennent se font aussi à l'extérieur, se font aussi avec des rencontres, se font aussi avec des échanges avec d'autres artistes ou dans d'autres lieux. Après, la question du lieu, elle se complexifie. Si on parle de chez Robert, je reviens encore avec chez Robert, mais comme chez Robert peut se transporter dans le coffre d'une voiture, peut se déplacer, il peut aussi être hébergé chez d'autres artistes. Donc c'est vrai que je vois bien, enfin, je vois le travail d'artiste actuellement. Je le vois beaucoup plus ramifié, on va dire, beaucoup moins enraciné qu'il n'a pu l'être de par nos modes de vie et nos modes de production. Bon, ben, c'est vrai que les résidences d'artistes, quelque chose que j'ai un peu pratiqué aussi, permettent d'élargir les domaines dans lesquels on peut travailler. Donc c'est vrai qu'il est difficile de répondre à une question fermée sur un lieu, et le lieu aussi peut devenir un piège. C'est une expérience que j'ai vécue à la sortie de l'école. J'ai fait l'école d'art appliqué à Paris. Je suis resté à Paris quelques années et ensuite je suis venu vivre dans le Jura pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai produit dans un lieu pendant une dizaine d'années sans trop m'occuper de ce qui se passait à l'extérieur. Je me suis construit moi-même, bien sûr, mais c'était d'un point de vue parcours artistique, avec du recul, relativement suicidaire.
Dans le désert, parle sans parler. Le ciel est blanc, les frontières sont floues. Où sommes-nous périls? Nevada, Malakoff. Thank you. misère. Les Colts envoient des mots à cette distance qui peut nous reconnaître, Billy. Bientôt la trouve du chef va débouler. Veste de plomb. Dans le désert plein de tueurs. Dans le désert, et toi, tu ne bouges pas. Dans le désert plein de tueurs. Dans le désert, toi, tu n'as pas peur.
De travail ou l'organisation du travail. Alors comment essayer de formuler tout ça? En organisation du travail, tout dépend des projets. C'est vrai que l'organisation globale est difficile à définir, mais sur un projet déterminé, il est évident qu'il faut avoir quelques étapes et quelques processus pour s'organiser de la manière la plus efficace qui soit. Après, c'est difficile de répondre d'un point de vue large, puisque c'est vrai que chaque projet étant spécifique, chaque projet a sa propre temporalité, on va dire. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je m'impose un rythme, j'ai une présence à l'atelier, même si j'ai pas d'échéance à très court terme, je passe du temps à l'atelier et je respecte une sorte d'horaire. C'est pas vraiment un horaire fonctionnel, c'est pas vraiment l'horaire un horaire d'usine ou de fonctionnaire, mais ça me paraît indispensable d'avoir un temps de présence à l'atelier, même s'il est occupé éventuellement à d'autres choses. Mais autrement, je travaille tout le temps. C'est-à-dire, que ce soit en me déplaçant, que ce soit dans d'autres lieux ou dans d'autres circonstances, je pense qu'on est toujours à l'affût et toujours en éveil pour essayer de grappiller quelques petites choses, quelques éléments déclencheurs dans notre environnement, proche.
Spend my days with a woman and kind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
Être artiste, un travail, une passion ou une maladie? Les programmes. Bon, être artiste, on va peut-être zapper les considérations sur qu'est-ce qu'un artiste. Une passion, c'est évident. Un travail aussi, et puis une maladie aussi. Les trois, on va tenter de dire. Bon, après, évidemment, moi, c'est ce que j'ai trouvé de moins pire pour rester vivant, quoi, on va dire, pour faire simple. Et c'est vrai que aussi bien la rencontre d'une œuvre, ou bien la rencontre d'un artiste, l'émerveillement qui peut arriver quand on fait advenir quelque chose qui n'existait pas précédemment, ou quand on pressent qu'on va parcourir, ou on va aller dans une direction qu'on n'avait pas imaginé. Tous ces petits miracles font que, ben voilà, c'est ce qui rend vivant, et c'est ce qui justifie une raison de vivre pratiquement. Et peut-être que j'ai pas rencontré suffisamment de gens, mais jusqu'à présent, les seules personnes que j'ai rencontrées qui m'ont vraiment fait partager des moments de ce type-là, c'était dans cet univers. Que ce soit du côté des artistes ou des gens sensibles à l'art. Mais c'est vrai que cette mouvance, je ne sais pas comment définir ça, mais disons, c'est un, tout ce qui gravite autour de la création, c'est ce qu'il y a de moins pire, quoi. Ce qu'elle est. À la fin de ce monologue, j'espère que je n'ai pas été trop pénible à écouter. Après, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés ou des choses dont on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de musique, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. J'en écoute énormément. J'ai des goûts assez serré, on va dire, assez avec une couleur déterminée, une couleur des guitares que j'aime bien. J'ai écouté beaucoup de choses depuis pas mal d'années. Donc ce serait un peu trop long de faire toute une énumération de groupes qui m'ont marqué. Mais disons que je trouve qu'il y a j'écoute beaucoup de rock, du rock minimal, du rock indie, des choses qui sont quelquefois très bêtes, première guitare, deuxième guitare, basse, batterie. Il y a une sorte de pulsation, il y a une sorte de vie qui m'accompagne beaucoup dans mes journées par rapport au son et par rapport aussi à la matière sonore. Il y a certains artistes qui travaillent énormément avec cette matière-là et qui font un réel travail plastique. Justement, plastique, ça fait penser à Plastic Man, qui est quelqu'un qui a des activités assez multiples et qui travaille en électro-minimal. Dans les années 90, j'ai écouté beaucoup d'électro-minimal, genre comme Panasonic, Plastic Man, dont je viens de parler, et d'autres dont j'ai oublié le nom. Et il y a eu, pendant 5 ou 6 ans, un mouvement vraiment très... très intéressant. Il y a Alvan Otto aussi qui a une pratique à la fois de plasticien et de musicien. Donc ça, c'était. On ne va pas refaire une émission sur la musique. C'est juste pour vous dire bonsoir et puis annoncer un morceau qui va conclure ça. Pour choisir un morceau, c'est un peu difficile. Il y a l'actualité, il y a des groupes qui m'intéressent bien, des groupes actuels. J'avais pensé à James Blake, par exemple, qui est un artiste qui est tout jeune et qui fait un truc qui bricole chez lui avec de multiples influences et puis un son un peu électro, quelque chose d'assez agréable à écouter. Il y a des groupes aussi de jeunes qui font de la musique de vieux. Double X, par exemple, qui est un groupe dont j'adore le premier disque et qui me rappelle un peu les Cure à leur début. Mais pour conclure, on va écouter un vieux de la vieille qui s'appelle Gérard Manset. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous le connaissent, mais qui ne passe pas beaucoup en radio. Il se commet depuis très longtemps. Je crois qu'il a sorti son premier disque dans les années 60, en 68, 69, un truc comme ça. On le connaît un petit peu plus grâce à Bachung. Dans le dernier disque de Bachung, il a repris deux titres de Manset, dont Il voyage en solitaire, et puis un autre, Comme un Lego, un titre qui a été écrit spécialement par Manset pour Bachung. Bachung, c'est assez particulier parce que c'est quelque chose de. Il a une voix qui est pas. Voilà, c'est peut-être pas terrible. La voix est pas terrible. Les arrangements ils sont très chic-poum. Donc c'est des arrangements pas terribles non plus. L'ensemble, je vous en parle, ça fait pas envie. Mais étonnamment, il y a une sorte de miracle. Il y a un cocktail qui fait que. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps, que j'écoute pas souvent, mais très régulièrement. Et donc le morceau que l'on va écouter s'appelle Lumière.
Mais où sont passées les lumières qui nous guidaient? Peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné sans nous attendre. Les ténèbres sont partout, couvertes de cendres. Souviens-toi que l'on s'aimait. Que l'on s'aimait quand même. Nous étions si jeunes, si fiers. Comment le dire? Nous avons perdu la lumière, l'étoile. Qui caressait nos paupières. égale. On se rappelle de quelque chose.
mais où sont passées, les lumières qui nous guidaient. Lion secoussa, Lion secoussa crinière. Derrière les barreaux de fer, sans illusion, derrière les barreaux. Derrière